J'ai intitulé ce matin et le mois prochain Timothée quitte au double. Timothée quitte au double. C'est-à-dire la vie chrétienne, c'est quand même pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile que ça. Jésus-Christ nous demande de vraiment le suivre. Et ce dont j'aimerais parler, c'est ce que c'est que d'être un disciple. Ce n'est pas quelqu'un qui de temps en temps suit Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui est attaché à Jésus-Christ, qui a compris, comme mon frère Philippe a dit tout à l'heure, et quelqu'un d'autre dans la prière et le chant, qu'il s'est sacrifié pour moi. C'est ça qui est fantastique. Quitte au double. Alors j'aimerais que ça soit un défi pour nous tous ce matin, et que nous donnions la réponse dans nos cœurs. Est-ce que je pourrais lire avec vous les deux versets qui doivent se trouver affichés sur le tableau? C'est vous qui contrôlez, c'est pas moi, je ne peux pas tourner pour savoir. Et c'est dans les Actes, chapitre 5 et verset 14. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. La multitude augmentait toujours plus. Ce n'est pas toujours la même histoire qu'on vit aujourd'hui. Et c'est là où j'aimerais poser un point d'interrogation. Mais au début, l'Église augmentait toujours plus. Et puis le verset qui est pour moi le leitmotiv, j'aime bien employer ce mot, je ne suis pas sûr que je comprends son sens, mais quelqu'un me l'expliquera un jour. Ça a l'air de mettre les choses en valeur. Dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, dit Paul à Timothée, il écrit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes et femmes fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. J'aimerais le répéter parce que ce verset a marqué ma vie personnellement, a marqué ma vie depuis le temps où le père de Dan Vandenberg m'avait amené visiter la base de Verdun où il m'a posé la question « Est-ce que tu connais bien ta Bible ?» Je ne sais pas ce que vous répondez. Moi, j'ai répondu « Bien entendu, je la connais bien. » Et puis, je ne vous dirai pas comment il m'a coincé. J'ai cité un verset, ce n'était pas trop mal. 2, tout juste. 3, on est allé avec des cannes et béquilles comme ce matin. Et 4, je ne suis pas arrivé beaucoup plus loin. Il m'a dit, tu as dit que tu connaissais la Bible. Et c'est lui qui m'a instruit dans ce verset, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aux hommes, aux femmes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres aussi. Je ne sais pas si vous réfléchissez au sujet de l'Église. Je ne veux pas dire celle-ci. On n'est qu'une partie de l'Église. Au pays de Gex, il n'y a qu'une seule Église. Et on est une petite partie de l'Église du pays de Gex. Est-ce que vous réfléchissez au sujet de l'Église, où elle en est? Notre partie et notre pays en même temps, notre pays de France. Est-ce que vous réfléchirez à ce qui se passe? Vous savez comme moi que les autorités actuelles nous rendent les choses de plus en plus difficiles d'être disciples de Jésus-Christ. Vous l'avez noté dans les notes ce matin, si vous les avez lues. C'était cité et souligné. On est dans une situation où ça va être de plus en plus difficile de vraiment suivre Jésus-Christ. Mais l'Europe, notre continent, est le seul continent dans lequel l'Église est en train de décliner en nombre. Le seul continent. Les autres, l'Église est en pleine expansion. De plus en plus de chrétiens dans d'autres pays, et même en venant chez nous, s'appellent par des noms qui ne sont les prénoms qui ne sont pas les nôtres. J'ai pensé à Ahmed, à Farida, à Céline. Je parle pas le chinois, il y en a peut-être qui parlent le chinois ici. Et Yuan, pour ceux qui sont hispanophones, et d'autres. L'Église est une mélange aujourd'hui de noms de toutes sortes de pays, d'Afrique, d'ailleurs. Merci Seigneur, merci Seigneur. En Belgique, je suis allé voir une église que je connais depuis longtemps. Elle était florissante, cette église. Mais j'ose dire que les anciens avaient une vision d'évangélisation qui était « Venez chez nous, devenez comme chez nous, faites comme chez nous et comprenez les choses comme on les comprend. » Les gens ne sont pas très emballés quand ils entendent ce genre de discours. Mais cette église a baissé, baissé, baissé. Et puis c'est merveilleux, et une invasion, oh, les gens qui ont envahi n'avaient pas la même couleur que nous. Et ils sont pleins de vie. Et cette église où j'étais il y a quelques jours en Belgique grandit maintenant et des choses se passent. Merci de cela, Seigneur. Alors pourquoi est-ce que l'expansion n'est pas si normale chez nous? Je me suis posé la question. Et je crois que la réponse est assez facile à discerner. Elle se trouve dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres, et le verset 26. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Aujourd'hui, c'est le sens inverse. Parmi les chrétiens, il y a quelques disciples. Oh, j'aimerais le dire clairement. En vous disant avec amour, en le disant pour que je regarde dans le rétroviseur pour moi. Il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de vrais disciples. Au début, pour être reconnu comme chrétien, il fallait être un vrai disciple. Nous, on devient chrétien si facilement, sans poser beaucoup de questions. Mais sur d'autres continents, c'est fantastique de voir ce qui se passe. En Chine, des millions de nouveaux chrétiens, des gens qui se convertissent presque tous les jours, et dont les églises de maison, parce qu'ils ne peuvent pas souvent se réunir autrement, et ils se réunissent et ils ont la carte de membre. Leur carte de membre, c'est d'être disciples de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas nos divisions. Ils ne connaissent pas nos dénominations. Pour eux, ce qui compte, c'est de parler de Jésus-Christ. On m'a parlé de chiffres astronomiques du nombre de personnes qui se convertissent aujourd'hui, tous les jours, en Chine. Oh, j'aimerais tant que ça soit tous les jours chez nous. J'aimerais tant. Il y a des gens qui meurent au pays de Gex sans connaître Jésus-Christ. Il y a des gens qui passent par ici sans savoir que Jésus est vivant vraiment. Il y en a peut-être ce matin qui ne se rendent pas compte que Jésus-Christ, c'est quelqu'un de fantastique. Quand jeudi matin, j'ai vu mon Hélène qui souffrait beaucoup physiquement quand j'étais loin, elle n'était pas bien lors de mes deux voyages et je les ai coupés en deux pour ne pas être loin. Je lui ai téléphoné deux fois par jour pour savoir comment ça allait. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est plus belle que je n'ai jamais pensé. J'étais si heureux de la voir. Et quand vous verrez Jésus, vous direz, mais il est plus beau que je n'ai jamais pensé. Il était fidèle à mon égard. Est-ce que j'étais fidèle à son égard? En Inde, on nous dit que semaine après semaine, il y a de nouvelles églises qui s'implantent dans des peuples non atteints pour le moment. Si vous n'avez pas lu le journal d'Empa, E-M-P-A-R-T, je vous recommande de le trouver. Trouvez-le sur l'Internet, quand vous savez le faire beaucoup mieux que moi déjà. Alors faites-le, regardez ce qui se passe. C'est extraordinaire ce qui se passe en Inde, mais c'est terrible ce qui se passe en Inde aussi. Il y a peu de mois, un missionnaire et ses deux filles ont été brûlées dans leur voiture, en Inde, parce qu'ils étaient chrétiens. Bien-aimés, soyons clairs, ça pourrait arriver chez nous. Si ça arrivait, moi j'aurais besoin de tes prières pour que je tienne ferme, parce que je me connais. Et toi peut-être pareil, ça pourrait arriver chez nous. Alors quel est le secret? Dans le Nouveau Testament, c'était tellement différent. Il y avait une équipe d'hommes qui suivaient Jésus-Christ, qui prenaient chaque parole qu'il prononçait, qui méditaient la parole et qui voulaient la mettre en pratique. Toute une équipe de, d'hommes et de femmes qui le suivaient et qui avaient peur d'être trouvés seuls au moment où ils partiraient. C'était une crainte terrible qu'ils avaient. Jésus leur a dit, « Je ne resterai pas toujours avec vous. Je vais m'en aller. Je vous enverrai un autre consolateur, mais ils n'ont rien pigé. Ils n'ont rien pigé. » Je pense que vous serez d'accord avec moi que les dernières paroles de quelqu'un sont très précieuses. Pas vrai? Les dernières paroles de quelqu'un qui s'en va sont très précieuses. On les médite. Je me souviens que je devais partir, j'étais en partance pour aller au Québec il y a quelques années. J'avais pris mon billet et je montais à Paris pour pouvoir prendre la correspondance quand j'ai appris juste avant de partir que mon cher père était auprès du Seigneur. Alors j'ai arrêté la suite à Paris pour le moment. C'est un miracle parce qu'on m'a donné le billet pour la suite, mais j'ai arrêté la suite pour aller à l'enterrement de mon père. Puis j'ai pris l'avion pour aller à Montréal. Je devais déjà commencer le soir même dans une soirée de jeûne à Montréal, plusieurs soirées de jeûne. Et en arrivant, le frère qui m'attend à l'aéroport me dit, « Mais ce que j'ai à te dire, c'est un peu gênant. » Je me demandais ce qu'il allait me dire. « Je ne veux pas en quoi que ce soit te gêner, mais je viens de recevoir une lettre. » J'ai dit, « Oui. » Il a déjà regardé derrière. C'était de ton père. Mon père avait écrit cette lettre avant de savoir qu'il allait mourir. Il est mort subitement pendant la nuit. Il m'a envoyé une lettre d'encouragement. Et je l'ai reçue après son décès. Et j'ai lu cette lettre. Ça m'a parlé. Ça m'a encouragé de penser que mon vieux père m'avait soutenu dans la prière jusqu'à là. Et pour les disciples, le Seigneur avait des dernières paroles aussi. Il leur dit, mais allez dans le monde entier et en allant, faites des disciples de tous les hommes et je serai avec vous. Il a prononcé ces paroles par autorité. Les dernières paroles de Jésus-Christ. Allez dans le monde entier et en allant, faites des disciples de tous les hommes et je serai avec vous. Et c'est une promesse formidable, là. Formidable. Jésus nous promet sa présence. Il veut être avec nous. Alors, bien-aimés, j'aimerais dire que si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Si vous entendez ce que je partage avec vous ce matin, ne dites pas « ça n'est pas pour moi ». Si vous dites « ça n'est pas pour moi à cause de mon âge », alors, je vais me disputer avec vous à cause de mon âge à moi. Si vous me dites, parce que je suis jeune, je ne veux pas recevoir cela, j'aimerais vous dire que j'étais jeune beaucoup plus longtemps que vous tous. Hein. Alors, vous ne pouvez pas disputer cela. Le Seigneur dit, n'endurcis pas votre cœur. Oh, bien-aimé, je vous exhorte, si le Seigneur te parle, ne dis pas, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas m'engager. Oh, je suis assez engagé. Oh, je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela. Ce monde est en train de mourir. Et devant les mourants, on ne se dispute pas. Devant les mourants, on annonce des bonnes nouvelles, la réponse que le Seigneur veut donner. Le Seigneur, dans ses enseignements, avait des résultats révolutionnaires pour ceux qui voulaient les recevoir. Quand vous pensez à la bande disparate d'hommes qui l'a suivie, des hommes qui étaient de toutes sortes, des pêcheurs, des paysans, qui ne parlaient pas la langue convenablement. Et pourtant, quand ils sont arrêtés par le conseil de la ville, et on pose la question de savoir ce qu'ils font, ils parlent de Jésus. Et les autorités de la ville disent, mais on constate que ces hommes ont vraiment été avec Jésus. Ces hommes ont été vraiment avec Jésus. C'est pour cela que mon cher Philippe a introduit la scène tout à l'heure, pour que ça soit un point de départ pour nous tous, qu'en quittant ce local ce matin, qu'on sache que nous avons été avec Jésus, vrai ou pas? Je pose la question. Vrai ou pas, nous avons été avec Jésus, qu'une prière nous a encouragés, qu'un verset cité par quelqu'un nous a encouragés, que les chants citant la parole de Dieu nous ont encouragés, et nous voulons vivre proche du Seigneur Jésus. L'indispensable pour moi et pour toi, c'est d'avoir une relation vivante et suivie avec Jésus-Christ. Notre relation avec Jésus-Christ n'est pas le dimanche matin de 10h30 à midi. C'est pas ça. Notre relation avec Jésus-Christ, c'est jour après jour. C'est pour ça que vous allez rire, mais c'est pour ça que je me suis permis quelquefois de dire quand quelqu'un me souhaitait bon dimanche, ça ne marche pas. Si tu me dis bonne semaine, je marche bien. Mais je ne suis pas là pour un bon dimanche. Je suis là pour une bonne semaine. Je suis là pour que la pensée de Jésus-Christ soit avec moi cette semaine. Et que mardi soir, si je ne suis pas mourant, ou je ne suis pas pris par la famille ou par mon travail, que je sois là pour la réunion de prière. Je ne sais pas ce qu'il y a mardi soir. Mais qu'on soit présent pour participer avec les uns et les autres. C'est tellement, tellement important. Lors de ses voyages, Paul était accompagné, j'ai compté, vous pouvez le compter pour vous-même, pour environ 27 personnes, comptées dans le Nouveau Testament. 27 personnes dont les noms sont cités, accompagnées Paul dans ses voyages. Alors c'est important que nous accompagnions Jésus de la même manière dans le voyage. Paul avait une relation intime avec Timothée, une relation qui voulait dire quelque chose. Et c'est mon deuxième point. La relation avec Jésus-Christ est une relation d'amour. Oh, j'aime beaucoup parler de l'amour. C'est quelque chose de fantastique. L'amour dans tous les sens, que ce soit agape, philo, autant l'amour sexuel entre un homme et sa femme, et vice-versa. C'est un don de Dieu, un don de Dieu. Et Dieu a un paquet d'amour pour toi ce matin. Excusez-moi, c'est peut-être pas un mot biblique, ça. Hein? Il a des paquets d'amour pour toi ce matin. Si tu ne savais pas, j'aimerais te le dire. Et Paul, quand il a écrit à Timothée, dit, « Tu es mon véritable enfant dans la foi. Mon véritable enfant dans la foi. » Moi, je suis heureux d'avoir une ou deux personnes qui sont un peu mes enfants dans la foi, qui fréquentent l'Assemblée de temps en temps. C'est une joie. Mais est-ce que j'ose demander, est-ce que toi, tu as des enfants spirituels dans la foi? Ou est-ce que tu es l'enfant spirituel de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un de vaguement âgé comme moi, est-ce que nous avons tous des enfants spirituels? Sinon, on n'est pas une famille spirituelle, hein? C'est tellement important cela. C'est tellement important cela. Et j'aimerais dire aux jeunes, si vous n'avez pas de père spirituel ou de mère spirituelle, débrouillez-vous pour en trouver un. Dis, mais un frère ou une sœur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu pries avec moi. Est-ce que tu ne peux pas m'inviter à prendre un café un jour pour que je partage mes problèmes? Embêtez les plus âgés, hein? Je porterai tout ça sur mon dos, ce serait ma faute si mon téléphone disant « tu n'aurais pas dû dire ça dimanche hein? ». Je dis « d'accord, je prie pour la suite hein? ». Mais c'est important ça, cette relation d'enfant avec père spirituel, d'enfant avec mère spirituelle. Et c'est important, dites, c'est pas que pour les plus âgés que je le dis, hein? Je le dis pour les jeunes. Les jeunes, vous pourrez aussi venir ici avec un de vos enfants spirituels, avec quelqu'un en route vers le Seigneur. Je partage le nom d'un, parce que quelques-uns le connaissent, qui a dit qu'il s'est converti, mais il ne suit pas beaucoup. C'est mon ami Grégory, agent immobilier. Priez pour lui, parce que c'est un homme que j'aime, mais il s'agit d'aller jusqu'au bout avec nos enfants spirituels. Quelque temps après, Paul dit, quand il écrit à Timothée, « Mon enfant bien-aimé, mon enfant bien-aimé. » Quand je regarde les jeunes dans l'assemblée, il y a plusieurs qui sont sur mon cœur. Vous n'avez pas le droit de regarder dans mon agenda, c'est privé. Hein? Dans mon petit agenda, mon grand agenda, il y a une liste de noms. Mais ça, c'est entre moi et le Seigneur. De ceux que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour eux. Est-ce que tu fais pareil? Je parle aux plus âgés, des vieux, comme mon ami Nicolas, par exemple, que les plus âgés et des noms pour personnes pour lesquelles ils prient, qu'ils soient une bénédiction à ces personnes. C'est ça le but. Le but n'est pas d'avoir une longue liste et de mettre un tiret à côté de l'un ou de l'autre. Le but, c'est d'être une bénédiction les uns avec les autres. Et nous nous souvenons de la relation terriblement intime entre le Seigneur Jésus et Jean, qu'il a appelé quelquefois, qui était appelé le disciple bien-aimé. Il y avait une relation d'amour, de père et fils, même s'ils n'étaient pas si loin quant à l'âge. Et quelquefois, c'est important cela. C'est important. Pour moi, s'embrasser à la sortie du culte, ce n'est pas un truc habituel. Ce n'est pas un truc habituel. Mais quand j'ai le privilège de le faire, j'aime le faire de tout l'amour de mon cœur. Et j'ai envie que vous fassiez pareil, qu'on soit un peuple d'amour, où l'amour de Jésus-Christ soit là. Je vous donne quoi? Une bonne idée, dit le Seigneur, dans Jean 13, 33 et 34. C'est ça, je vous donne une bonne idée. Non, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi, tout le monde saurait que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mionic dans tout cela, quand même. Il faut que ce soit honnête. Disciple de Jésus-Christ, c'est porter sa croix. Et chacun d'entre nous a une croix à porter. Quelque chose qui n'est pas facile à porter. Une situation qui n'est pas facile à vivre. Et le Seigneur a permis cela pour qu'on court entre ses bras. Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette situation. Je ne sais pas comment m'en sortir, mais j'ai besoin de toi. Paul avait tout un programme, et c'est la deuxième chose que j'aimerais dire là, dans ce désir d'être disciple. Paul avait tout un programme pour ses enfants spirituels. Vous le trouvez dans Colossiens 3 et 16, par exemple. Colossiens 3 et 16. Entre parenthèses, s'il y en a qui veulent une copie des notes, j'en ai quelques exemplaires que je puis vous donner. Paul voulait que le message de Christ habite en vous avec sa richesse. Et avertissez-vous réciproquement. Tiens, il y a deux choses là. Paul voulait que le message habite en vous avec richesse, que vous soyez heureux d'être chrétien. Jean 16 et 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Être chrétien, c'est d'être heureux en Christ. C'est d'être heureux en Christ. Il nous promet cela, mais il dit en même temps, avertissez-vous réciproquement. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seule. C'est une contradiction, cela. On est dans une famille. Une famille a des règles et des conseils. Il est bon que les uns et les autres avertissent quand ils voient quelque chose qui n'est pas clair dans la vie de l'un ou de l'autre. À Timothée, Paul écrit, « Mais toi, mon fils, tu étais mon fidèle compagnon, tu m'as accompagné pas à pas, tu as écouté mon enseignement, tu as observé mon comportement et tu en as fait la ligne de conduite de ta vie, tu as adopté mon projet de vie et tu as voulu, comme moi, croire, aimer et supporter l'épreuve. » Plusieurs choses qu'on peut dire là. Un projet de vie. Moi, je crois que ce projet de vie est important. J'ai un exemplaire seul derrière, ne le prenez pas. Un exemplaire d'un cahier que je donnais dans le passé à chacun qui s'approchait du Seigneur pour qu'il le fasse, pour qu'elle le fasse avec quelqu'un d'autre. Moi, j'aimerais recommander que vous y pensiez, les responsables et d'autres, pour avoir un cahier comme ça. C'est un cahier qui s'appelle « Veux-tu me suivre ?»« Veux-tu me suivre ?» Et il est fait par quelques amis qui habitent dans le Pas-de-Calais. Mais, bien-aimés, ayez quelque chose pour cela. Quand vous suivez quelqu'un, quand quelqu'un s'approche du Seigneur, montrez-lui ce que cela veut dire. Instruisez-le dans la Bible. Partagez la parole vivante. Notre foi est basée sur une autorité. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a parlé. Vous m'entendez bien? Dieu nous a parlé. C'est ça qui est la base de notre vie chrétienne, des certitudes dont on ne peut pas s'éloigner. On est dans un monde qui s'éloigne. On est dans un monde chrétien qui s'éloigne parce qu'on met de l'eau dans l'affaire, dans le vin. Et ce n'est plus l'autorité du Seigneur parce que c'est le sentiment qui compte. Je vous ai parlé souvent de ce jeu de mots, le sentiment, parce que c'est l'expérience qui compte. Je suis convaincu qu'il faut de l'expérience dans la vie chrétienne, la joie dans la vie chrétienne, mais je ne suis pas chrétien parce que je suis joyeux, mais c'est parce que je suis chrétien que je suis joyeux. Vous voyez la différence? C'est la base dans la parole de Dieu. Alors je pose de nouveau cette question. La priorité en devenant disciple de Jésus-Christ, c'est comme pour Timothée, quitte au double, quitte au double, quitte au double. Il y a peut-être des jeunes ce matin auxquels le Seigneur est en train de parler en disant, ta vie, je veux que tu m'appartiens, je veux que tu m'appartiens. Moi, j'ai combattu avec le Seigneur quand j'étais jeune fonctionnaire à Genève. J'ai combattu parce qu'il voulait que je le suive et je lui ai dit de... je lui ai laissé le dimanche, mais qu'il me fiche le camp pour le restant de la semaine. J'ai dû apprendre que le Seigneur voulait tout, pas juste la moitié. Former des disciples, c'est la seule chose qui peut intervenir dans ce monde où on habite aujourd'hui. C'est le royaume de Dieu qui a la seule réponse. J'ai parlé avec pas mal de gens ces derniers jours, des gens de toutes sortes de bords. J'ai demandé au Seigneur, en allant, en prenant l'avion la semaine passée, il y a 10 jours plus tôt, en prenant l'avion, Seigneur, tu me donnes d'être à côté de quelqu'un auquel je dois parler. Et je me suis trouvé à côté d'une femme très distinguée, de la haute classe sans doute, qui était de Tel Aviv, de la haute classe juive israélienne, et elle parlait guère d'autres langues que la sienne. Alors j'ai essayé de m'expliquer, de dire que Dieu, c'était le vrai Dieu qu'il aimait, de lui parler d'Ésaïe, où il y avait un prince de paix qui était proposé. Le Seigneur te demande d'être disponible pour cela. J'arrive à mon troisième et dernier point ce matin. Pour moi, c'est presque le plus important. C'est la méditation. Où il y a beaucoup de gens qui pratiquent la méditation. Toutes sortes de gens qui pratiquent la méditation. Vous les voyez se promener comme s'ils ont trop bu. Ce genre de choses, méfiez-vous de cela. La méditation pour le chrétien, j'essaie de trouver une définition, j'en ai pas trouvé une qui me satisfaisait, et je vous en propose une. La méditation, c'est l'action de l'esprit sur notre esprit pour révéler le sens de la parole de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit sur mon esprit pour révéler le sens de la parole de Dieu. Et le chrétien a besoin de cela. Bien-aimés, vous avez besoin de cela. Besoin de cela. Je dois dire, je suis quelquefois endormi quand je suis devant un repas qu'Hélène a préparé. Elle me dit, chérie, tu le regardes sans savoir ce que tu manges. Quelquefois, les hommes sont comme cela. Hein? Ils n'ont pas le temps. Si on voit qu'il rit là-bas aussi, on est coincé là. Elle me dit, mais regarde ce que tu manges. C'est ça, nous avons à un pas à la fois, lire la parole, qu'est-ce qu'elle me dit maintenant? Et si elle te dit beaucoup de choses, arrête-toi là. Passe peut-être la nuit à réfléchir, quand tu réveilles pendant la nuit. Et il y a des promesses dans la Bible là. Jean 16 et 13, notez cela comme promesse. Jean 16 et 13. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il répétera ce qu'il a entendu. Quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité, dans la méditation, mais selon la parole de Dieu, pas selon ce que les hommes pensent de la parole de Dieu, mais selon ce qui est écrit. Au début d'un chapitre dans les Hébreux, il est dit que Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes, par les pères et les prophètes. Il nous a parlé maintenant par le Fils, des choses précises. Un verset que je vous laisse aussi, c'est Ésaïe 50 et 14. Chaque matin, il me réveille. Il me réapprend à écouter, qu'on doit écouter les disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute. Ésaïe 50 et verset 14. Chaque matin, il me réveille. Est-ce que tu te réveilles le matin? Il y en a qui sont toujours endormis, là. Levez les mains. Mais quand on se réveille le matin, sache que c'est le Seigneur qui nous réveille. Le Seigneur qui nous réveille. Quand mon père est mort, il ne s'est jamais réveillé. Je ne sais pas si vous me suivez. Il avait prêché un soir. Il est rentré chez lui. Il était en son lit avec ma belle-mère. Et elle se réveille le matin pour voir que mon père ne se réveille plus. Mais le Seigneur te réveille. C'est une grâce. C'est une grâce qui nous a réveillés ce matin. Vous savez cela? Vous savez, je remercie le Seigneur parce qu'il t'a réveillé ce matin. Hein? Si tu n'as pas remercié le Seigneur, c'est que tu n'es pas encore réveillé. Hein? Tu es endormi. Arrêtez ça vite. Hein? Le Seigneur nous réveille afin qu'il nous parle, qu'il nous apprend à écouter. Il nous a réveillés pour qu'on écoute ce qu'on nous a chanté ce matin, ce que Philippe a lu ce matin, ce que je partage avec vous ce matin, et ce que vous allez partager avec l'un et l'autre tout à l'heure en mangeant. Un disciple écoute et puis il suit son maître. D'abord écouter et suivre son maître. Pour être un vrai disciple, il faut apprendre à écouter. Et il y a un avertissement que je vous donne dans un instant. Aujourd'hui, ayez l'esprit éveillé. Bien-aimés, j'ose vous dire, réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous s'il vous plaît. Pas uniquement pour voir mieux adorer le Seigneur, c'est ça l'important, mais pour savoir dans quel temps on est. On est dans une période de l'histoire qui est tragique. Je ne sais pas comment ça va se terminer. On est dedans, toi et moi. Et le Seigneur a permis qu'on soit là. Ayez l'esprit éveillé. Prenez garde, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Récitez l'autre dimanche, 1 Pierre 5 et verset 8. Donc, soyez fermes dans la foi, dit Paul quand il écrit cela. Cela veut dire d'avoir foi en la parole de Dieu, esprit et vie. Alors, je vous donne une petite conclusion, laissant de côté des choses que je voulais vous dire. Deux choses. C'est pour cela que David, à un moment difficile dans sa vie, dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il y a mon frère Pierrick qui a veillé pour que ça soit sur les notes que vous avez reçues pendant la semaine. C'est bien ça, hein? Merci Pierrick. Et j'aimerais vous dire que c'est quelque chose à prendre par cœur. Quand j'ai pensé à ces versets que j'aimerais partager avec vous, j'ai pensé à ces petits cahiers que nous avons faits à l'eau vive. On met les versets dedans. Si vous en voulez, je peux vous en donner un. Mais mon gendre m'a dit, mais tu sais, tu n'es pas la page, toi. Tu es dépassé par les événements, toi. Personne ne fait cela. On le met sur son téléphone maintenant. Alors vous m'apprenez à savoir comment le mettre sur mon téléphone, et ce serait formidable. Vous copiez ce que Pierre-Éric a mis sur les notes et vous le mettez sur votre téléphone. Cette semaine, vous mettez le psaume 119, verset 9 et verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et la prochaine fois que je parlerai, j'espère avoir les poches remplies de carambars, je vais dire « Tu peux le dire pas. » Et toi, tu... Alors attention, vous courez des risques la prochaine fois. Et il dit, David qui a écrit ces paroles, qu'il médite le Seigneur pendant l'éveil de la nuit. Comment est-ce qu'on médite? J'aimerais vous dire qu'une bonne manière, c'est d'apprendre les versets par cœur. En les repassant dans nos cœurs, en les chantant. Oh, je sais qu'il y a des gens de mon âge qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on chante le même petit cœur deux ou trois fois? J'ai envie de les arrêter disant, mais je te comprends très bien, ça m'ennuie quelquefois, mais tu connais ce verset par cœur, alors vas-y. Alors je ne ferai pas, ne vous en faites pas. Mais si on le chante deux ou trois fois, c'est peut-être qu'on a besoin de le chanter deux ou trois fois, pour que ça rentre. Et pour que la première fois qu'on le chante, on voit certaines choses. Et la deuxième fois qu'on le chante, il y a d'autres choses dans ce verset qui nous parlent. Et la troisième fois qu'il y a autre chose, vous comprenez? La parole de Dieu est vivante et elle est fantastique de cette manière-là. Et tout à l'heure, je vous ai cité Colossiens 3 et 16, afin que la parole habite en vous avec toute sa richesse. Jérémie, dans le chapitre 15 et verset 16, disait ceci, « Il dévorait la parole et ça mettait son cœur en fête. » C'est un peu comme on dit les choses dans le midi. J'ai le cœur qui chante. C'est ça. Quand on médite, le cœur chante. Il y a quelque chose de riche qui arrive. Je me souviens, juste avant d'avoir terminé, d'avoir parlé de ces versets quand j'étais très jeune. Je suis parti aux États-Unis et j'étais à Long Island, au nord de New York. On m'avait demandé d'apporter les messages dans un camp de jeunes. Et j'aurais dit, mais les versets bibliques, c'est comme les fraises. C'était la saison des fraises. Et j'aurais dit, j'aime tellement manger des fraises. Alors, quand vous lisez un verset, c'est comme si tu mangeais une fraise. Et le Saint-Esprit met la crème là-dessus. Hein? Vous mangez cette fraise et vous buvez, vous mangez ce verset. Alors, les Américains étaient assez rapides. Quand je suis revenu au camp le soir, ils étaient une cinquantaine. Ils m'ont planqué par terre, ils ne m'ont pas laissé bouger, ils m'ont forcé la bouche ouverte. Et fraise après fraise. À un moment donné, j'ai dû dire pitié, stop. Mais je ne dirai jamais pitié, stop pour les versets bibliques. Prenez-les comme des fraises. Dévorez-les pour nous protéger d'avance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà les deux versets que je vous suggère de mettre sur vos téléphones, même les plus anciens. Les anciens n'ont peut-être pas de téléphone, mais vous le mettez quelque part sur le frigo et vous le relirez pour l'apprendre tous les jours. Je me suis posé la question de pourquoi il y a de si peu de vrais disciples. Et on m'a raconté une petite histoire. J'aime toujours les petites histoires pour terminer parce que vous vous souvenez des petites histoires, mais demandez, posez la question, mais pourquoi est-ce que Brion a cité cette histoire? Voilà tout à fait la fin, cette petite histoire. Un jour, il y a un homme qui est allé voir un fermier qui avait un beau troupeau de moutons, très beau troupeau. Et il les admire, et il a dit, ils sont formidables, comment est-ce que tu arrives à avoir des moutons comme cela? Vous savez ce qu'il a répondu? Quand il y a des agneaux qui arrivent, j'en prends bien soin. Quand il y a des agneaux qui arrivent, j'en prends bien soin. C'est ça que nos bien-aimés font en bas, dans la permanence pour les tout-petits. C'est ça que vous faites dans ce que je préfère appeler le culte des enfants que l'école du dimanche, dans le culte des enfants. C'est ça que vous allez faire, je prie cette semaine, que vraiment vous le fassiez. Vous répétez ces versets, que vous les preniez dans votre vie, que vous en parliez. Vous verrez que c'est fantastique, vous allez rencontrer quelqu'un dans la journée qui a besoin juste de ce verset-là. Et maintenant, vous savez où ça se trouve. Et vous savez ce qu'il dit. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Le Seigneur vous aime. Et il veut vous bénir. Et que sa parole demeure en richesse parmi nous. Prions le Seigneur. Dans le silence, est-ce que nous pouvons prendre cet engagement avec le secours du Seigneur d'apprendre déjà ces deux versets par cœur, avec la référence, qu'on s'en retrouve. N'ayez pas peur, je ne vais pas te demander dimanche prochain, je ne suis pas là dimanche prochain, mais je suis... Pas vous demander dans deux semaines si vous l'avez appris ou pas. Si vous ne l'avez pas appris, c'est vous qui êtes perdant. Et je ne voudrais pas que vous soyez perdant, parce que le Seigneur veut te bénir. Seigneur, je veux te remercier de cette parole vivante, esprit et vie que tu nous as laissée. Une parole qui qui est devenue écrite pour que nous sachions ce que tu veux nous dire, que nous pouvons citer des promesses, des certitudes. Merci Seigneur pour ces saintes paroles. Et je te demande que tu nous aides à la garder en valeur, par qu'elle soit dans nos placards avec la poussière, mais qu'elle soit vécue, dit, redit, chantée, partagée, méditée dans nos vies. Viens notre secours, Seigneur, et bénis chacun ce matin, en particulier ceux qui n'ont pas fait le pas encore avec toi. Tu les aimes. Bénis-les, Seigneur. Amen.
C'est ça, mon cher.
Avant de partager les annonces avec vous, je vais laisser la place à Thérèse qui veut me partager un petit témoignage. Ça tombe bien qu'il soit petit parce qu'il est bientôt midi.
Ça va être rapide. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon témoignage, la persécution, plainte en gendarmerie, que j'en ai les larmes aux yeux. Eh bien, j'ai gagné. Merci Seigneur. Voilà. Et donc, il a été débouté de sa plainte, elle a été classée sans suite. Par contre, j'aimerais que vous m'aidiez à prier, parce qu'il a fait la même chose pour 5 jeunes derrière moi, dont un dernier qu'il a mis en dehors de l'appartement, il lui a enlevé tous ses meubles, et mon fils l'a recueilli en attendant. Et il persécute maintenant aussi mon fils. Donc, j'aimerais vous prier pour... Donc, il y en a un, c'est Alain, Habib, Romain, Florent... Et mon fils, bien sûr, parce qu'il les persécute, c'est du harcèlement, c'est l'horreur. Voilà, alors comme je suis toute seule à prier pour eux, j'aimerais bien avoir un peu d'aide. Voilà, c'est tout. Allez manger, bon appétit.
Merci pour ce témoignage qui nous encourage aussi. C'est vrai, pensons à eux aussi dans la prière. Je partage avec vous le programme de la semaine. Un programme bien rempli. Demain, le conseil se retrouve à 19h30. Mardi, il y a déjà l'étude biblique pour les aînés à 14h30. Ensuite, mardi soir, c'est pas la réunion de prière. Mardi soir, et puis c'est pas non plus à 20h30 comme les réunions de prière. C'est à 20h et c'est une réunion de membres, mais les amis, toutes les personnes sont aussi les bienvenues. Et on va parler des commissions. Des commissions, donc des dons, de l'appel de Dieu, des dons, des ministères. Et des commissions. Mercredi, la chorale. Vous avez vu, c'est toutes les semaines la chorale maintenant. Alors, à la chorale, il y a encore de la place. Mercredi passé, il y a 2 nouvelles personnes qui se sont jointes à la chorale. C'est bien, c'est encourageant. Plus on est, plus c'est intéressant. Il y a encore de la place, mais il n'y aura pas de la place trop longtemps, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on apprend les chants, eh bien, à un moment donné, ça devient trop tard pour rentrer dans la chorale, pour préparer donc le concert de Noël. Donc, réfléchissez. Si vous voulez vous joindre à la chorale, vous êtes les bienvenus. Mercredi, donc, la chorale qui se retrouve. Samedi, il y a plein de choses. Le groupe d'ado à 15h. Ensuite, non, il n'y a pas. Ah, il y a eu un changement alors. Ah, il n'y a pas explosion de la... Ok, donc il y a le groupe d'ado, j'imagine. Juste, non? Donc, c'est pas la bonne date. Moi, j'avais repris la liste, mais bon. Donc, explosion, il n'y a pas. Le groupe d'ados non plus.
J'ai un blanc.
Alors, les ados se fient à l'email qu'ils ont reçu. Explosion de louange, il n'y a pas. Il y a donc le groupe de jeunes, par contre. Et dimanche prochain... Thé café à 9h30, c'est juste, Pierre-Alain. Thé café à 9h30 et puis culte à 10h30. Le mardi, un des mardis plus tard, le 14 octobre, je vous rappelle donc qu'il y aura le théâtre de la Marelle qui va venir à Echenevé dans le cadre des activités de la pastorale. Donc cette année, il y a les flyers au fond de la salle, il y a aussi les petites affiches. C'est sûr donc... Paul, C'est donc sur le thème de la vie de Paul. Moi, je vous invite à y participer. Il y a besoin de personnes pour aider à décharger et recharger le bus après la rencontre. Si vous avez de la disponibilité donc, pour décharger, c'est aux environs des 16 heures. Donc, c'est assez tôt. Si quelqu'un a une disponibilité, faites-le moi savoir, parce que ce n'est pas évident de trouver des personnes qui sont disponibles comme ça assez tôt dans la fin de l'après-midi. Voilà, c'est toutes les annonces que j'avais. Sinon, je vous invite à vous lever. Je partage avec vous encore deux versets dans Éphésiens. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine et aussi bon dimanche.